Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand présentent Hallo Nantes.
Euradio Nantes und das deutsch-französische Kulturzentrum präsentieren Hallo Nantes.
Vous êtes donc sur Euradio Nantes pour l'émission Hallo Nantes du Centre culturel franco-allemand de Nantes de ce mois d'avril. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, il y a mes trois collègues que vous connaissez déjà. À ma droite, Laura Zella, jeune ambassadrice de Saarbrücker Nantes. Bonjour Laura.
Bonjour.
Ensuite, Zina Bittner, que vous avez pu entendre dans de nombreuses émissions depuis la rentrée 2018. Et Zina qui s'occupe nouvellement de missions d'éducation civique chez nous au Centre culturel franco-allemand. Bonjour Zina.
Bonjour.
Und dann noch dritter Gast, Eva, Eva Fuchs, die bei uns ein Volontariat écologique franco-allemand macht. Eva war auch schon in der letzten Émission. Bonjour Eva.
Bonjour.
Et en plus, on a une invitée sur le plateau. Avec nous aujourd'hui pour la troisième partie de l'émission, il y a Florence Bouris qui est directrice adjointe du cinématographe.
Bonjour. Bonjour.
Dans cette première partie, on va commencer à parler d'abord des projets de la jeune ambassadrice et ensuite passer aux projets dans le domaine du développement durable. Et dans un premier temps, on parlera de la Fête d'Europe et d'un projet que nous a concocté, préparé la jeune ambassadrice pour ce mois de mai. Est-ce que Laura, tu pourras nous en dire un peu plus ?
Bien évidemment. Alors, si vous êtes intéressé par la musique jazz et vous avez envie de découvrir le jumelage entre la ville de Nantes et la ville de Saarbrück, je vous donne rendez-vous le 8 mai à 19h30 à l'espace Cosmopolis qui se trouve à 18 rue Scribe, c'est passage Gralin, derrière le 14A directement.
Alors, Laura, tu nous as dit que c'est un projet donc, de musique de jazz. Quelle est la particularité de ce projet de jazz ?
La particularité de ce projet, c'est en fait que c'est dans le cadre de la Fête de l'Europe. Alors, on organise un concert de jazz avec des jeunes musiciens de Nantes et des jeunes musiciens de Saarbrück. Il s'agit d'un échange-retour. Alors, le premier volet du projet se déroulait en mai 2018 à Saarbrück. Et là, en fait, c'était trois Françaises en volontariat franco-allemand et un jeune ambassadeur de l'OFAGE qui ont eu l'idée de faire une rencontre interculturelle autour de la musique. Et comme ça s'est très bien passé à Saarbrück, on organise le retour du projet pour permettre au public nantais de découvrir la musique avec des jeunes de Saarbrück.
Alors, Laura, peut-être un mot aussi sur les musiciens, puisque les musiciens de Saarbrück, donc tu les connais, puisque le projet s'est déjà déroulé à Saarbrück l'année dernière, même si tu n'étais pas encore mission de jeune ambassadrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors le Billet Doux, c'est le groupe de Saarbrück. C'est un groupe allemand qui est composé de Patrick Hensberger à la trompette, de Philippe Hergé à la guitare et de Nico Klöffer à la contrebasse. Et le programme des trois jeunes étudiants de jazz reflète les multiples facettes du jazz qui se mélange aussi avec un peu des numéros de pop de jazz contemporain.
Alors, donc, ça sera une soirée au Cosmopolis. Est-ce que cette soirée, elle s'adresse à tout le monde ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Et comment se déroulera cette soirée ?
Alors, la soirée, elle est ouverte à tout le monde. Elle est aussi gratuite. Et du coup, la soirée commence à 19h30. Du coup, le concert va commencer vers 20h à peu près. Et après le concert, il y a aussi une session jam ou au bar Mélocoton, qui se trouve juste à côté du Cosmopolis.
Laura, merci beaucoup. Donc, on n'a plus qu'à souhaiter, en fait, justement, de nombreux visiteurs et de nombreux jeunes et moins jeunes qui viendront pour ce concert. Donc, on rappelle la date, le 8 mai, donc pour la Fête l'Europe. Et tu seras là, les musiciens de Saarbrück seront là. Merci beaucoup. Und in diesem zweiten Teil des ersten Teils der Sendung kommen wir jetzt zu einem anderen Projekt und ich schaue zu meiner Kollegin Jung, also der ökologischen Freiwilligen bei uns im Kulturzentrum. Und Eva, du hast uns was ganz anderes mitgebracht und zwar beim letzten Mal haben wir über den Internationalen Tag des Waldes geredet und diesmal geht es wieder um einen Tag, international oder nicht. Worum geht es heute?
Heute sprechen wir über den Tag des Baumes, der jedes Jahr am 25. April gefeiert wird. Und das international.
Mhm. Woher kommt denn dieser Tag des Baumes?
Ja, die Idee des Tag des Baumes kommt eigentlich aus Nordamerika, aus dem Bundesstaat Nebraska. Und dort haben sich die ersten Siedler haben sich da so 1854 angesiedelt und unter diesen waren eben Sterling Morton. Und er fand eine relativ baumarme Landschaft vor und hat sofort mit seiner Familie Bäume und Sträucher gepflanzt. Mhm. Und ja, und das, er war ein Journalist und hat die erste Zeitung auch in Nebraska gehabt und hat das ja in seiner Zeitung immer wieder thematisiert. Und so kam es, dass eben er der Erste war, der dann diesen Tag eben vorschlug, sodass am 10. April 1872 der erste Tag des Baumes in Nebraska gefeiert wurde und an diesem Tag eben über 1 Million Bäume gepflanzt worden sind.
Jetzt hast du gerade von den Ursprüngen dieses Tag des Baumes gesprochen. Seit wann gibt es diesen Tag denn international?
Ja, am 27.11.1951 beschloss die FAO, also Food and Agriculture Organization, der UNO, den Völkern eben diesen Tag, Weltfesttag des Baumes, zu empfehlen.
Jetzt sind wir in einer deutsch-französischen Sendung. Welche Rolle spielt denn dieser Tag in Deutschland? Seit wann gibt es ihn in Deutschland, also seit dem gleichen Datum vermutlich? Und was passiert heute? Was ist das heute in Deutschland für ein Tag?
Also in Deutschland wurde der Tag das erste Mal am 25. April 1952 gefeiert und da hat der damalige Bundespräsident Professor Dr. Theodor Heuss eben einen Ahorn gepflanzt und jedermann ist und war aufgefordert, zu diesem Anlass eben aktiv zu werden.
Und was passiert heute, wenn man sich heute anguckt an diesem Tag? Gibt es da bestimmte Projekte, die ins Leben gerufen werden und extra an diesem Tag stattfinden?
An diesem Tag gibt es größere und auch sehr erfolgreiche Mitmachaktionen im Naturschutz. Das ist jetzt egal, ob da ein Parkbaum gepflanzt wird, ein Alleebaum oder auf einer Aufforstungsfläche ein Baum gepflanzt wird. Es gibt auch Wandertage, wo besondere Bäume besichtigt werden können. Das sind
Jetzt haben wir ja beim letzten Mal noch darüber gesprochen, dass eben im Zusammenhang mit diesem internationalen Tag des Baumes gibt es ja auch eine Wahl zum Baum des Jahres immer. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was das genau ist, dieser Baum des Jahres und vielleicht uns auch dazu sagen, welcher Baum ist denn jetzt zum Baum des Jahres gewählt worden oder letztes Jahr gewählt worden?
Jedes Jahr gibt es, wird ein Baum in den Fokus gesetzt. Also das war vor einigen Jahren die Fichte, weil sie eben durch den Borkenkäfer viele Probleme hatte. Vor 2 Jahren waren es Apfelbäume, letztes Jahr die Esskastanie und dieses Jahr ist es die Flatterulme. Ja, die Flatterulme, die ist eigentlich nicht so bekannt. Sie hat noch 2 Schwestern, eben die Bergulme und die Feldulme. Aber die Flatterulme ist eigentlich sehr besonders, weil die mit dem urbanen Klima viel besser zurechtkommt. Also gerade in Stadtgebieten wird sie häufig gepflanzt. Sie kommt gut mit dem Stadtklima klar. Sie ist deutlich toleranter gegenüber Luftverschmutzung, Streusalz und Bodenverdichtung.
Und jetzt wolltest du, glaube ich, noch zurückblicken auf einen früheren Baum des Jahres, als nämlich der Apfelbaum vor ein paar Jahren gewählt worden ist zum Baum des Jahres, weil es da auch noch einen ja, vielleicht ein ganz erinnernswertes Zitat gibt aus der deutschen Geschichte dazu.
Genau, also 2017 wurde eben anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation eben der Apfelbaum erkoren. Und da gibt es einen ganz schönen Spruch, den wollte ich unbedingt bringen, von Luther. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und dieser Spruch zeigt eigentlich, dass dieser Tag eigentlich das soll ein Zeichen sein für die Zukunft, da Bäume erst in gewissem Alter eigentlich erst was fürs Klima tun können. Also
weil man jung eben schon was macht für die nächste Generation, nicht eigentlich selbst für die eigene Generation.
Genau.
Eva, vielen Dank. Was uns jetzt noch bleibt, ist, on va repasser en français, puisque on vous apporte évidemment, comme à chaque fois pour chaque émission de radio, aussi des musiques. Et aujourd'hui, vous allez le voir, dans la troisième partie de l'émission, on a l'honneur de parler avec Florence Buris du cinématographe de la rétrospective Vendas. Et aujourd'hui, Zina, les musiques ont quelque chose à voir avec l'invité de la journée.
Ja, genau. Also auch bei der Musik haben wir uns heute überlegt, dass es schön wäre, ein Wim Wenders-Special daraus zu machen. Und deswegen haben wir heute alternativ zu den sonstigen Sendungen mal englische Musik mitgebracht. Und das erste Lied, was wir jetzt hören werden, ist von U2, Stay. Das ist ein Lied, was in der Fortsetzung von Himmel über Berlin von Wenders zu hören ist. Und viel Spaß damit.
Musik. heaven good runs to go. Just the vibe and the clatter as winter hits the ground.
Hallo Nantes.
Hallo Nantes.
Sur Euradio Nantes.
Vous êtes donc sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand de Nantes. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, il y a Margot Libel. Margot, bonjour.
Bonjour.
Margot, tu passes actuellement une semaine à Nantes chez nous au Centre culturel, une semaine qui s'appelle en allemand « Uki Gluck » et puis en français « Bonheur écolo ». Donc j'aimerais bien savoir ce qui fait ton bonheur cette semaine à Nantes.
Alors, je suis cette semaine chez EFA, donc une copine de séminaire en fait. Donc déjà, ce premier élément... me rend vraiment heureuse, on va dire. J'ai appris à la connaître du coup 2 semaines déjà et je suis très contente de pouvoir passer une semaine avec elle. Et c'est sa mission donc au CCFA de Nantes m'intéressait beaucoup parce que en tant que volontaire franco-allemande, je m'intéresse à ce domaine à ces échanges entre les deux pays. Voilà, pour en savoir un peu plus. Et Nantes était aussi une ville qui m'intéresse beaucoup. Voilà, revenir un petit peu en France, dans l'ouest de la France pour moi qui viens de l'est. C'est aussi agréable.
Très bien. Donc, ça veut dire cette semaine d'échange avec EFA, donc la volontaire écologique franco-allemande chez nous, CCFA. Tu es donc là pour que vous fassiez ensemble quelques projets pendant cette semaine-là. Mais peut-être que tu peux nous parler de ta mission aussi et peut-être d'abord de ton parcours aussi, puisque toi, tu as choisi donc de passer cette année en Allemagne en tant que volontaire écologique. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie-là?
Alors, je suis étudiante en urbanisme à la base. Je fais mes études à Paris et j'ai fait un semestre Erasmus à Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Et l'Allemagne m'a beaucoup plu, faire mes études là-bas m'a beaucoup plu aussi. Mais un semestre, j'ai trouvé ça court et je voulais rester encore un peu plus longtemps en Allemagne. Et j'ai eu la possibilité de faire une année de césure entre mon M1 et mon M2. Et le domaine de l'environnement, bon, c'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps et je le trouve aussi très intéressant et important dans le cadre de mes études en urbanisme. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un thème de toute façon primordial pour l'avenir des villes. Et donc je voulais en apprendre un peu plus sur l'environnement. Et donc pour la structure où je suis au NABU.
Alors, il faudrait peut-être expliquer aux auditrices et auditeurs français ce que c'est que le NABU.
Alors le NABU, en allemand, c'est le Naturschutzbund Deutschlands. Et on peut traduire ça par l'association de protection de l'environnement allemande. C'est une des plus grosses et des plus importantes associations environnementales en Allemagne. On peut un petit peu la comparer à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux en France, parce qu'originellement, c'était une association qui était focalisée sur la protection des oiseaux. Ça ressemble aussi un petit peu à la FNE, France Nature Environnement, pour ses positions politiques aussi. Le NABU a des centres de recherche et publie des articles scientifiques aussi. Donc voilà, un petit peu entre ces deux groupes.
Alors, tu nous as parlé en fait du NABU. Quelle est ta mission précise auprès du NABU? Donc toi, tu es à Trèves, en fait, dans le siège régional en fait, du NABU en fait, à Trèves. Et en quoi consiste ton travail là-bas?
Donc je suis dans le siège régional de Trèves et j'organise des activités, des événements avec le groupe de Trèves. Alors ça peut être diverses sortes d'activités. J'ai organisé des soirées discussions autour j'ai organisé une soirée urbanisme avec des thèmes l'écologie dans l'urbanisme avec un architecte luxembourgeois. Sinon, on a aussi des soirées. On a organisé une soirée climat avec une autre volontaire anglaise, une volontaire allemande et moi. Donc, on a fait une soirée climat autour de la politique environnementale française, anglaise et allemande. C'était très intéressant. On a aussi des Ferienfreizeit. C'est des centres aérés pour les enfants où on organise des activités autour de la nature. Il y a aussi un projet assez phare du groupe de Trèves. C'est le projet de protection des Streuobstwiesen.
Alors là, il faut expliquer ce que c'est, Streuobstwiesen.
Bon, on peut traduire ça simplement par les vergers. Alors, plus scientifiquement, c'est les vergers de haute tige, mais je n'avais jamais entendu ça en France. C'est donc ce sont des vergers qui ont vraiment la particularité d'avoir des écosystèmes très riches. Et les arbres sont très importants pour les animaux et aussi pour la flore qui y est. L'arbre est à la fois un endroit de vie et source de nourriture, de reproduction, un endroit où les animaux peuvent aussi hiberner parfois. Donc c'est presque un biotope très très riche et que le Naboo veut protéger. Il y a beaucoup de tels vergers dans la région. Et l'idée, c'est donc de pousser les gens à garder ces vergers qui, en fait, sont plus rentables du tout. C'est souvent des vieux arbres, c'est des vieilles sortes de pommes. Et donc, le Naboo soit rachète les surfaces et les entretient lui-même, ou alors rachète les pommes des gens pour ensuite en faire du jus de pomme qu'on commercialise. Donc, en automne, j'ai participé à la récolte des pommes. Sinon, tout au long de l'année, on a des actions d'entretien des vergers. Et en ce moment, on commercialise aussi le jus de pomme. Donc, on va dans les magasins, dans les restaurants pour un peu présenter le projet. Et voilà.
On regrette beaucoup que tu n'en aies pas apporté en fait, à Nantes pour ton séjour ici cette semaine à Nantes. Alors, mais autre question peut-être, puisque tu fais des études d'urbanisme, pourquoi ce complément de formation plutôt axé biodiversité et nature, en quel rôle ça joue en fait pour ta... Toi, tu te destines à être urbaniste. Pourquoi rajouter de ça? Quelle est l'importance justement de l'écologie dans le domaine qui t'intéresse, toi, en tant que pour ton futur professionnel?
Alors, pour mon propre futur professionnel, c'est justement parce que j'ai envie de donner une autre dimension à mon parcours. Et je pense, bon, c'est encore à voir, mais je ne pense pas vouloir faire de l'urbanisme pur et dur. Mais peut-être travailler dans des parcs naturels, ça m'intéresserait beaucoup. Ou être plus chargé de mission environnement et pas projet urbain ou transport. Voilà, il y a en fait l'urbanisme et l'aménagement, c'est très très large. Et voilà, pour moi, c'est la possibilité de me spécialiser déjà un petit peu. Bon, alors même si un volontariat, c'est pas une formation, je fais des choses avant tout, j'ai des missions à remplir, mais j'apprends forcément aussi beaucoup. Mais je m'étais déjà questionnée sur la possibilité de poursuivre mon parcours par un autre master en environnement.
Et pourquoi, puisque ça c'est aussi, ça fait partie de ton volontariat, pourquoi le franco-allemand? On sait maintenant que ça existe, il existe un service volontaire européen, tu travailles avec d'autres volontaires venant d'Angleterre par exemple, pourquoi le franco-allemand? Qu'est-ce que ça t'a rapporté ce franco-allemand là aussi pour ton parcours?
Alors donc, je viens de Lorraine, du nord-est de la France, donc depuis la sixième j'apprenais l'allemand. Et c'est une langue que j'ai toujours pris plaisir à apprendre parce que j'ai fait des échanges depuis toujours, en fait, grâce quand même à la proximité pour moi de l'Allemagne dans ma région. Mais c'est une langue que j'ai pris plaisir à apprendre grâce aux échanges. Et j'aimerais bien peut-être aussi vivre à Strasbourg ou peut-être même aussi continuer à faire d'autres stages en Allemagne. C'est aussi, je trouve, une autre mentalité en Allemagne. Et en ce qui concerne l'environnement, Oui, je trouve qu'en Allemagne, il y a déjà une pensée peut-être plus aboutie ou en tout cas différente et que je trouve aussi très intéressante à apprendre. Et de manière générale, les langues, je trouve que c'est toujours un petit défi personnel qu'on peut se donner et qui est très gratifiant quand on se rend compte qu'on arrive à parler allemand, à vivre en Allemagne.
Voilà ce qui fera plaisir en fait pour les auditeurs de radio, puisque c'est justement la pratique en fait sur ces ondes-là de radio de parler plusieurs langues. Si maintenant, au bout de tes premiers 6 mois, tu devrais faire un premier bilan, on est aussi dans le temps de candidature pour les volontariats franco-allemands pour la prochaine saison, et on rappelle que ça existe dans plusieurs domaines, donc il n'y a pas que l'écologie, il y a le culturel, ça se fait dans l'enseignement supérieur, dans les écoles aussi, dans le social. Quel bilan tires-tu au bout de ces 6 mois-là? Est-ce que tu peux le recommander en fait à d'autres personnes de partir et pourquoi?
Alors je le recommande, oui, je le recommande tout à fait parce que c'est vraiment la possibilité de changer un peu son quotidien, d'aller voir d'autres horizons et même si l'Allemagne c'est le pays voisin, il y a quand même beaucoup de choses différentes, on apprend beaucoup à l'étranger, on rencontre de nouvelles personnes et comme bilan, essentiellement beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes très gentilles, très accueillantes qui sont très contentes de nous connaître en tant que Français aussi. Et oui, vraiment des gens très accueillants.
Et le mot de la fin, peut-être, Margot, ça sera de dire en fait aux auditeurs, qu'est-ce que tu fais avec Eva cette semaine? Cette semaine, alors, qu'est-ce que c'est? Une semaine de rencontre, là aussi? Ou quels sont vos projets pour cette semaine de travail commun, donc justement ici à Nantes? Et est-ce que ton échange aura une suite? Est-ce qu'Eva va te rendre visite aussi à Trèves?
Alors, cette semaine, on a eu la rencontre des jeunes éco-actifs hier soir. On a aussi un cours avec des enfants, un cours d'allemand qui aura lieu demain. Jeudi, on va participer au programme à Nausée. C'est un programme avec des enfants où ils entretiennent de manière écologique une surface. Et bon, et sinon, on va aussi profiter un petit peu de la vie à Nantes et voilà, passer du bon temps. C'est essentiellement les activités qu'on a. Et effectivement, EFA vient ensuite en mai, mi-mai, à Trèves. Et on a même prévu sûrement de faire une petite semaine de vacances avant qu'elle vienne pour qu'on puisse visiter Strasbourg, aller se promener un peu dans les Vosges et ce genre de choses.
Bon, bah, très bien. Margot, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui sur le plateau de radio. Donc, je rappelle que tu es donc volontaire écologique franco-allemande au NABU, au siège régional de Trèves.
C'est ça.
Bah, merci beaucoup pour ta venue. Et nous, on se retrouve juste après la petite musique pour la suite de l'émission Allô Nantes du CCFA.
Merci pour l'accueil.
Shiny chrome. If you take the key out, a truck won't move. That's my little freedom. Fast food can be kinda depressing. The DJ digs honeycomb.
Allô Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes donc de retour sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Allô Nantes. Zina, vielleicht können wir noch einmal kurz zurückschauen auf die Musik et tu pourras nous dire ce qu'on vient d'écouter.
Genau, eben gerade haben wir gehört von Improved Sound Limited, 9 Feet Over the Tarmac. Und das ist der Soundtrack von Im Laufe der Zeit von Wim Wenders. Und man hört richtig schön den Roadmovie-Style daraus, den wir aus mehreren Filmen kennen.
Et justement, en parlant de Wim Wenders, on va accueillir sur le plateau Florence Bouris, qui est directrice adjointe du cinématographe à Nantes. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau puisque le cinématographe propose ces mois-ci deux rétrospectives qui concernent finalement la cinématographie allemande. Donc, vous êtes en train de projeter les films de Marcel Ophüls.
Max
Ophüls, pardon. Justement, père et fils. Et puis après, il y aura bientôt une rétrospective Wim Wenders. Alors, peut-être qu'on pourrait faire ensemble un petit bilan d'abord sur la rétrospective de Max Ophüls. Et puis dire aussi qu'évidemment, aujourd'hui tu es sur le plateau, c'est que Max Ophüls, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on va chaque année dans le cadre de notre festival de cinéma à Saarbrück, au grand festival à jeune création de langue allemande qui porte son nom. Vous montrez une partie de Max Ophüls qui n'est pas la partie allemande, mais enfin, tu vas nous en dire peut-être un peu plus.
Oui, Max Ophüls, je crois qu'il y a un film quand même qui est parti allemande, Liebelei peut-être.
Oui.
Mais c'est aussi une question de disponibilité de copies, de films. Malheureusement, il y a pas mal de ces films qui sont peu disponibles. Et voilà, mais donc on passe plus la partie française, américaine, et après il y a un petit retour en Allemagne avec Lola Montes, mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui a beaucoup voyagé. Alors voyagé, je ne sais pas si c'est le terme, parce que s'il a été un peu forcé par l'histoire, il a notamment fui le régime nazi, c'est pour ça qu'il est parti d'Allemagne. Mais voilà, mais je pense qu'on retrouve dans son cinéma aussi toutes ces influences. Et donc là, il reste quelques jours pour voir quand même parmi ses grands films. Donc voilà, je disais Lola Montes, il y a aussi La Ronde, Le Plaisir, qui sont vraiment des très grands films de ce cinéaste.
Et pourquoi avoir fait le choix de remontrer les films de Max Ophüls dans le cadre de votre programmation? Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir ce cinéaste?
Alors peut-être juste pour commencer, pour rappeler que notre programmation, on l'a fait collectivement. Du coup, c'est une, ce qu'on appelle notre commission de programmation qui choisit les films. On est une vingtaine de personnes, des salariés, des administrateurs, des enseignants de cinéma, enfin, avec donc des cinéphilies différentes, des âges différents. Enfin, donc on couvre une large partie de l'histoire du cinéma ou de goût cinématographique. Et donc on avait quelques personnes, deux, trois personnes, enfin surtout une à laquelle je pense qui avait vraiment envie de faire quelque chose sur Max Ophüls, parce qu'il aime ses films, tout simplement, je pense. Et pour nous, les plus jeunes, on va dire, bah, du coup, c'est un nom, effectivement, qu'on connaît. On a vu quelques films, Madame 2, il y a ces grands noms-là qui restent. Mais on était aussi, du coup, très, très intéressés et très motivés pour en voir d'autres et pour en montrer d'autres au public.
Alors maintenant, le festival dure encore quelques jours. Comment faire pour vous trouver à Nantes, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, ce qui n'est presque pas possible?
Presque pas possible. Donc le cinématographe, on se trouve juste à côté de la rue Strasbourg, donc au 12 bis rue des Carmélites, petite rue, il faut suivre après le Café du Cinéma. Et puis donc on a un site internet, www.lecinematographe.com, qui donne toutes les infos nécessaires.
Alors très bien, et donc après Max Ophüls, vous allez donc bientôt basculer en fait sur un autre réalisateur, donc là aussi qui est allemand, mais qui n'a pas resté toute sa vie en Allemagne non plus. Et donc votre choix s'est porté sur Wim Wenders. Pourquoi ce choix-là du coup?
Alors Wim Wenders, oui, donc voilà, on est un petit peu dans les mêmes, en tout cas la même façon de procéder que pour Max Ophüls, si ce n'est qu'il y a quand même une ce qu'on appelle des rééditions du coup de ces films qui ont été faites récemment, donc avec une restauration de copies éventuellement, donc nettoyage des films, donc normalement des films en très bonne qualité qui sont ressortis par un distributeur qui s'appelle Tamasa. Et donc du coup ça a déclenché, on s'est dit bah oui effectivement Wenders c'est quand même un nom qui parle aux cinéphiles, en tout cas aux gens qui aiment le cinéma, et ça nous a paru important de montrer c'est les films de ces débuts là du coup de 71 à 86.
Alors avant de parler des détails, peut-être en fait nous on avait fait lors de notre festival de cinéma l'année dernière une petite enquête auprès du public français, et ce qui est ressorti de cette enquête là, c'est ma collègue Zina qui s'en était occupée, qui est avec nous sur le plateau, c'est que Wenders jouit toujours d'une grande popularité auprès du public français. Comment ça s'explique? Quelle est l'image qui est celle de Wenders en France?
Alors, du coup, je pense, hein, je ne veux pas parler pour tous les Français, mais je pense qu'il a l'image d'un cinéphile, en fait. Wenders, c'est un cinéaste qui cite beaucoup d'autres cinéastes, d'autres films. Il a fait jouer, d'ailleurs, des cinéastes, un cinéma avec beaucoup de références. Et je pense que voilà, la cinéphilie et la France, c'est un peu une histoire d'amour. Donc, je pense qu'il y a ce lien-là aussi. On aime bien ce cinéaste. Parce qu'il cite d'autres cinéastes, des Français, mais pas que, beaucoup des Américains aussi. Donc, je sais pas, c'est ma théorie après.
Parlons peut-être des coups de cœur qui sont les vôtres, puisque Wenders a laissé une œuvre protéiforme, beaucoup de films. Évidemment, vous pouvez pas tous les montrer, mais alors sur quel film s'est porté votre choix du coup ?
Alors, donc j'ai dit, on est sur les débuts du coup de Wenders. Il y a presque tout. Il en manque quand même quelques-uns. Là aussi, c'est des questions de disponibilité de copies. Et donc, après, il y a pour ceux qui les ont pas vus, il y a je pense qu'il y en a trois qui sont vraiment les plus connus, mais peut-être à raison. Il y a donc Alice dans les villes, et Les ailes du désir et Paris, Texas, quoi. Du coup, je pense qu'ils sont vraiment les trois titres très, très connus. Mais, si on commence avec Alice dans les villes, on peut aussi continuer avec Faux mouvements au fil du temps, du coup, qui sont, considérés comme sa trilogie. Donc, Faut tous les voir, en fait.
Très bien, mais à partir de quand on pourrait les voir, en fait, chez vos cinématographes ?
Oui, alors c'est à partir du 24 avril et c'est jusqu'au 21 mai. Du coup, il y a 9 films qui sont présentés.
Très bien. Peut-être qu'on pourrait parler, en fait, en détail de 2-3 films aussi, prendre le temps de nous arrêter sur un film. Je pense que le grand classique pour le public allemand, ce serait Les ailes du désir, puisque aussi, à l'occasion de la disparition de Bruno Ganz, en fait, cette année, à l'occasion, je me rappelle, en fait, c'était la journée de clôture de la Berlinale, quand... la nouvelle qui tombait en même temps que l'annonce des prix était sa disparition. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, en fait, peut-être de 2-3 films vraiment qui font votre programmation ?
Oui, alors, Les ailes du désir, effectivement, tu en parlais. C'est un film, c'est un film mythique, donc qui se passe pas longtemps avant donc la chute du mur. Enfin, on sent qu'il y a toute l'histoire aussi de Berlin qui est présent. Enfin, donc c'est un conte. Il y a un côté fantastique, mais qui est traité d'une manière particulière, avec ces voix qu'on entend, les anges sur Berlin. Donc avec un très beau noir et blanc. Enfin, c'est un film mythique qu'il faut absolument, je pense, revoir sur grand écran. Moi, j'ai envie de parler de Paris, Texas, même si du coup c'est plus la période américaine, mais c'est vraiment un très grand film, un très beau road movie qui part dans plein de directions. La très belle musique de Ry Cooder. Enfin, c'est un film où on se balade et on se laisse perdre un petit peu dans le désert. Donc,
Et peut-être, puisque tu as dit que vous êtes une équipe de 20 personnes qui s'occupent ensemble de la programmation, ton coup de cœur personnel, en fait, dans cette rétrospective, en fait, si tu avais un film à mettre en avant.
Non, moi, mon coup de cœur, ce serait Paris, Texas. Mais c'est le premier film de Wenders que j'ai vu. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans son cinéma. Même si, du coup, c'est une entrée particulière. Hein, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, ce serait celui-là. Puis après, il y en a plein que moi, j'ai pas vu. Parce que je suis pas une spécialiste de Wenders. Et donc, je suis très contente de pouvoir aller les voir.
Florence, merci beaucoup, mais on ne va pas terminer en fait avant d'annoncer une grande nouvelle, puisque le cinématographe a une grande nouvelle à annoncer, une décision immédiate et puis en fait un avenir en fait radieux en fait dans les années qui viennent.
Du coup aujourd'hui on a eu l'annonce que le permis de construire du coup pour le projet de nouveau bâtiment avec le cinématographe est prévu. Le permis de construire a été signé. Donc ça, c'est une première étape du coup pour ce nouveau projet. Et donc on est très contents du coup.
Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pourquoi un permis de construire ? Qu'est-ce qui changera pour vous et pourquoi déménager en fait du coup ?
Alors pardon, le déménagement du coup, c'est depuis plusieurs années qu'on y travaille. On est dans un lieu qui est un petit peu à l'étroit maintenant. On n'a pas d'accessibilité pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. On a des tout petites toilettes, on a des mini bureaux pour les projectionnistes. Enfin voilà, les conditions de travail sont loin d'être parfaites. Et en plus, on fait beaucoup de monde. Bon, ça, on est très content, mais on reçoit beaucoup de monde. Et donc, on manque de place aussi, de créneaux pour passer toute la diversité des films qu'on a envie de passer. Donc ça fait maintenant 7 ans à peu près qu'on travaille sur ce déménagement et qu'on a donc travaillé avec un promoteur qui a trouvé ce lieu du coup sur le cours des 50 otages et où du coup il y aurait un immeuble construit avec des appartements et au premier niveau le cinématographe avec 3 salles, avec un hall d'accueil, avec des bureaux sur place, tout ce qui nous manque. Et donc le permis de construire pour ce bâtiment vient d'être signé.
Très bien. Rappelons que pour les rétrospectives, que ce soit à Max Ophüls ou alors Wim Wenders, on vous retrouvera toujours rue des Carmélites, rue de Strasbourg.
Oui, pour l'instant,
ça sera pour l'instant là. Et dans un avenir pas trop lointain, vous allez donc être encore plus central peut-être avec...
Avec ce projet, oui. On espère fortement. C'était la première étape. Il y a encore un petit peu de boulot, mais on est confiants.
Florence Bouris, je rappelle que toi, tu es directrice adjointe du cinématographe. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Non, et puis, on termine cette partie avec une annonce de Zina pour la musique qui suit.
Ich kann das ja gar nicht schöner ankündigen, als es eigentlich eben schon gemacht wurde, weil wir hören jetzt die tolle Musik von Ray Cooder aus dem Film Paris, Texas.
Allô Nantes
sur Euradio Nantes.
Vous êtes donc de retour sur Euradio pour cette quatrième partie de l'émission Allô Nantes du Centre culturel franco-allemand. Et dans cette quatrième partie, Zina, on va parler ensemble un peu de ce qui nous attend au mois de mai, donc c'est-à-dire les élections européennes. Et ça d'un point de vue allemand, du coup. Et j'aimerais peut-être te demander comme première question qu'on fasse un petit retour sur les dernières élections européennes pour rappeler un peu le cadre. Il est vrai aussi en Allemagne, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur l'échiquier politique. On assiste à une décomposition de l'échiquier politique en France. En Allemagne, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais aussi des changements qui arrivent. Est-ce que tu pourrais nous rappeler encore dans quelle situation, justement, ça s'est passé la dernière fois? Et puis ensemble, après, on pourra regarder, un peu faire... Oui, un peu voir ce qui nous attend au mois de mai.
Genau, also die letzten Wahlen waren ja 2014. Also das Europaparlament wird alle 5 Jahre gewählt. Und letztes Mal war die Situation noch ein bisschen anders als heute, Stichwort Brexit. Und zwar im letzten Europaparlament, also bis jetzt sitzen da noch 751 Abgeordnete drin. Demnächst sind es wahrscheinlich nur noch 705. Um die Rahmendaten mal kurz anzureißen, also in Deutschland, für Deutschland sitzen immer und werden auch weiterhin 96 Abgeordnete im Europaparlament sitzen, für Frankreich 74. Ja, die wenigsten hat zum Beispiel Malta mit 6 Abgeordneten nur.
Sina, peut-être qu'on peut rappeler en fait pourquoi. Comment ça se fait que l'Allemagne a plus de députés en fait que d'autres?
Also, ja, klar. Ja, gut, das ist einfach zu erklären. Also, Deutschland ist einfach größer und hat die meiste Bevölkerung. Und das wird nach Bevölkerungszahlen ungefähr gemacht. Wenn es genau wäre, dann hätte Malta gar keine Abgeordneten. Aber so ungefähr geht sich das eben aus. Das ist auch ganz interessant, weil die Abgeordnetenplätze, die jetzt durch den Brexit wegfallen quasi, die britischen Plätze, die wegfallen, werden verteilt dann nochmal auf, also ein Teil wird verteilt auf die bisher nicht so gut repräsentierten Länder. Und das ist eine Sache, die sich jetzt zum Beispiel ändert. Auch für die Wähler hat das jetzt erstmal nicht so einen großen, also ist es nicht so eine große Änderung. Da sind vielleicht eher andere Sachen interessant, die im Moment politisch passieren.
Est-ce qu'on peut revenir aussi sur le résultat des dernières élections pour voir un peu quelle est la situation de la représentation dans le Parlement européen par du côté de l'Allemagne en fait jusqu'ici?
Also dazu ist es vielleicht auch noch mal gut zu erklären, dass die Europawahl ja immer in den einzelnen Ländern stattfindet. Also man wählt ja nicht europaweit gleich, sondern man wählt ja für die eigenen Parteien im Land. Sprich, in Deutschland wählt man ja ganz normal dann für beispielsweise SPD, CDU und so weiter. Und das wird dann umgelegt auf die europäischen Parteien. Im Großen und Ganzen gibt es da auch ähnliche Parteien, also eben Konservative, Sozialdemokraten und so weiter. Und bisher, und das wird vermutlich auch weiter so sein, ist die EVP, die Europäische Volkspartei, die stärkste Partei. Aber es wird natürlich bei der Volkspartei genauso wie bei den europäischen Sozialdemokraten vermutlich einige Änderungen geben. Also da zeichnen sich nationale Tendenzen dann auch ganz gut auf europäischer Ebene wieder ab.
Si on revient sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un peu les tendances nationales par rapport aux résultats des élections européennes, quels sont les changements notables en fait auxquels on peut s'attendre par rapport aux prochaines élections, par rapport au score des partis en Allemagne?
Also, ich nehme an, man kann erwarten, dass die CDU und die SPD deutlich absacken. Ich habe mir gerade Umfrageergebnisse vom 8. April angeguckt. Und da sah es so aus, als würde die CDU in Deutschland beispielsweise 5% weniger bekommen. Bei der SPD waren es schon 10%. Also das, was wir bei den letzten Landtagswahlen gesehen haben und auch auf Bundesebene, zeichnet sich weiter ab. Gewinner weiterhin die Grünen mit diesmal 7% mehr, also 19% laut den Umfragen. Und gleichzeitig auch die AfD, die ja jetzt zum zweiten Mal antreten auf europäischer Ebene, aber eben letztes Mal gerade so, oder was heißt gerade so, sind mit 7% reingekommen, aber sie haben jetzt auf jeden Fall größeren Zulauf und man geht davon aus, dass sie ihr Ergebnis verdoppeln könnten.
Faut peut-être rappeler aussi que l'AfD entre-temps a changé un peu de cap, puisqu'il y avait en fait notamment les eurosceptiques qui étaient à la direction du parti, qui entre-temps ont été remplacé, si on veut le dire, en fait, par le volet plus à droite du parti, et donc du coup qui change aussi la direction politique en fait du parti. Autre chose dont tu viens de parler, en fait, il y a un enjeu fort pour les conservateurs lors de ces élections-là, puisque un des candidats est peut-être celui qui est le plus, comment dire, en fait, le mieux placé pour devenir le prochain président de la Commission est issu du rang des conservateurs allemands.
Genau, Manfred Weber ist der Name, den man sich merken sollte für diese europäischen Wahlen. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das auf die Wahlbeteiligung in Deutschland auswirkt. Auf jeden Fall Manfred Weber, CSU-Kandidat, schon seit vielen, vielen Jahren in der EVP-Partei, seit vielen, vielen Jahren auch im Bayerischen Landtag gewesen, auf Bundesebene und so weiter aktiv. Ist durchaus ein bekannter Name und auch ein bekannter Mensch. Und der wurde eben jetzt von der EVP-Partei als Spitzenkandidat gewählt. Das gibt es ja seit 2014, dass die europäischen Parlamente, die europäischen Parteien jetzt Spitzenkandidaten festlegen, damit die Bürger einfach wissen, wer als EU-Kommissionspräsident zu erwarten ist, je nachdem, für welche Partei man stimmt. Und um das Ganze auch ein bisschen transparenter zu machen, das wird ja der EU oft vorgeworfen, dass man gar nicht weiß, für wen man wählt. Und Manfred Weber ist eben jetzt der Spitzenkandidat der größten Partei und könnte bald in Jean-Claude Junckers Fußstapfen treten.
Sina, tu viens de rentrer à Nantes après 2 mois passés en Allemagne. En fait, du coup, est-ce que tu peux en dire un peu sur la situation en Allemagne? Est-ce que les élections européennes font débat en Allemagne et quelles sont peut-être les thématiques qui sont les plus, enfin voilà, les plus mises en avant? Puis après, on peut voir en fait si c'est la même chose du côté français.
Also auf jeden Fall kann man sagen, dass Europa präsenter geworden ist in den Gedanken der Bevölkerung, glaube ich, gerade wenn man sich jetzt die Migrationskrise, wenn man es so nennen kann, der letzten Jahre anguckt, so wie Umweltfragen. Ich meine, Friday for Future ist in Frankreich genauso ein Thema wie in Deutschland. Und das sind einfach Sachen, die jetzt auf europäischer Ebene diskutiert werden und die oft auch im europäischen Kontext erwähnt werden. Und das könnte dafür sorgen, dass sich wesentlich mehr Leute dieses Mal an der Europawahl beteiligen. Wobei man auch nicht unterschätzen darf, gerade in Deutschland gab es ja zu den letzten Europawahlen den Spitzenkandidaten Martin Schulz. Also der war auch sehr medienpräsent. Und ich glaube, was die Spitzenkandidaten angeht, ist es in Deutschland diesmal nicht so ein spannendes Rennen. Es wird eher thematisch über die EU diskutiert. Und man wünscht sich, glaube ich, für viele Sachen eine gemeinsame Antwort und gemeinsame Ziele, weil immer wieder diskutiert wird, dass man die Sachen eben nicht nur auf deutscher Ebene lösen kann.
Si on parle aussi de la participation aux élections européennes, est-ce que tu pourras rappeler les chiffres de la dernière fois? Et puis, tout à l'heure, tu as dit, en fait, à la fois le Parti conservateur, aussi bien que les sociaux-démocrates, sont en perte de vitesse. Est-ce que ce sont des votes qui profiteront à l'extrême droite ou est-ce qu'il faut s'attendre aussi à beaucoup de votes d'abstention, finalement, en fait, lors de ces élections-là?
Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass mehr Leute wählen bei diesem Mal. In Deutschland lag die Wahlbeteiligung letztes Mal bei 48,1%, was sehr niedrig ist, auch im Vergleich zu Bundestagswahlen, zu Landtagswahlen. EU-weit lag sie sogar nur bei 42% oder 42,6 genau. Und das ist natürlich schade. Also das sollte nicht so sein, meiner Meinung nach. Wir sollten uns an Malta orientieren mit 75%. und es wird natürlich spannend. Also wie ich eben schon kurz erwähnt habe, ich glaube, viele wird es motivieren, dass sie, viele wird es motivieren, auch mal andere Parteien zu wählen. Ich nehme mal an, die Wahlbeteiligung könnte steigen durch zum einen Motivierte aus dem Bereich Umwelt. Gleichzeitig wächst aber auch die Unzufriedenheit auf die EU in gewissen Bereichen und wir können davon ausgehen, dass viele, viele Leute, die vielleicht vorher noch nicht gewählt haben, jetzt auch zur Wahl gehen und da ihre Stimme abgeben für wahrscheinlich auch die eher EU-kritischeren Parteien. Und das wird ganz spannend zu sehen, ob sich die Tendenz da weiter so abzeichnet wie eben auf Bundesebene, dass gerade AfD und die Grünen dann wieder an Stimmen gewinnen oder ob vielleicht doch durch Spitzenkandidaten Manfred Weber viele Leute vielleicht für die Konservativen, für CSU oder CDU stimmen werden.
Et si on termine peut-être par la question de savoir, alors donc on espère évidemment que lors des élections, ce seront des enjeux européens qui seront mis en avant. Bon, après, tout le monde sait qu'il y a aussi des enjeux nationaux par rapport à ces élections-là. Quels sont les enjeux nationaux de ces élections-là pour la suite en Allemagne? Tu as déjà rappelé que les Verts ont fait des bons scores lors des élections régionales. D'ailleurs, il y a aussi une élection régionale dans l'état ville de Brême, même date que l'élection en fait, que les élections européennes. Quelle est la signification de ces élections pour la suite de ce qui se passe au niveau national en Allemagne?
Also, ich glaube, da kann man sagen, dass die Europawahlen ja auch immer ein bisschen ein Fingerzeig sind, genau wie Landtagswahlen, die eben zeigen, wie geht es weiter in dem eigentlichen Land. Ich habe vorhin gelesen, dass man auch sagen könnte, es wären die Nebenwahlen, obwohl ich das schade finde, weil ich finde, die europäischen Wahlen haben viel mehr Bedeutung als Nebenwahlen. Aber manchmal gehen Leute auch bei den europäischen Wahlen wählen aus Protest, um eben ihrem Land zu zeigen, das und das passt mir nicht. Und deswegen sollte Deutschland oder Frankreich da genau aufpassen, wie wählen die Wähler, was kann ich demnächst tun, um meine Bevölkerung wieder zufriedener zu machen. Und deswegen wird das spannend zu sehen, was die Leute wählen, weil da steckt natürlich immer eine Warnung oder eine Bitte an die Bundesregierung auch drin, ganz klar.
Sina, et peut-être pour terminer, puisque là en France, on sait qu'actuellement dans l'actualité, il y a le grand débat, il y a les gilets jaunes, en fait c'est beaucoup de sujets, il y a l'environnement aussi. À ton avis, les sujets qui vont dominer en fait le débat en Allemagne, 2-3 sujets peut-être, 2-3 thématiques?
Climat, migration, finance crise. vielleicht.
Zina, merci beaucoup. Et je te donne la parole puisque tu vas annoncer aussi la musique avec laquelle on va terminer. Non, il n'y a plus de musique à la fin, c'est bien qu'en fait le radio le rappelle. Donc du coup, on est arrivé à la fin de cette émission-là. Merci beaucoup pour la participation de tous les collègues et puis de Florence Bouris du cinématographe. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission de Hallo Nantes. Et merci beaucoup pour votre écoute.
Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand vous ont présenté Hallo Nantes. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur euradio.fr.
Euradio Nantes und das Deutsch-Französische Kulturzentrum präsentierten Ihnen Hallo Nantes. Wollen Sie mehr wissen? Gehen Sie auf euradio.fr.